Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Ici Elisabeth Antebi qui reçoit Jean Iliopoulos. Bonjour Jean Iliopoulos.
Bonjour.
Qui est académicien des sciences en physique théorique. Et comme son nom l'indique, il est grec. Il a même été ingénieur, je crois, de l'École polytechnique d'Athènes.
Exact.
Bon, donc nous montons à la source de nos recherches, puisque nous invitons pour une fois un grec, qui est aussi membre correspondant de l'Académie d'Athènes, qui est aussi docteur honoris causa des universités de Crète, de Ioannina, c'est-à-dire Janina pour nous, je crois, non ? Et d'Athènes, et directeur de recherche émérite au CNRS. Alors, Jean Iliopoulos, il est toujours très difficile d'expliquer les recherches d'un physicien de physique théorique, puisque c'est théorique.
Oh, c'est pas plus difficile que les autres.
On va essayer. Oui. On peut essayer,
oui.
Oui, d'abord, j'aimerais que vous disiez vous-même pourquoi vous avez été couronné d'un prix prestigieux qui est le prix d'Irak.
Oui.
Me semble-t-il. Vous semblez douter. Est-ce que vous doutez de ce qu'il vous soit advenu ou qu'il soit prestigieux ? Prestigieux.
C'est surtout le. Oui, le mot prestigieux est très exagéré.
Bon, mais alors c'était pour quelque chose qui fait rêver les gens qui sont extérieurs, pour les particules charmées.
Oui.
Alors, qu'est-ce que le charme que vous avez
rien.
Trouvé
le mot, c'est un mot un peu idiot. C'était une plaisanterie entre nous qui est restée dans la publication. Donc,
alors, dites-nous comment c'est né, d'ailleurs, cette
particule charmée. C'était plutôt, c'est pas le sens ordinaire du terme, c'est le sens plutôt comme la recette magique, le charme qu'on portait contre les...
Ah, le charme magique.
Le charme magique, justement, parce que justement, c'était lorsqu'on a découvert ça, on a trouvé qu'il y avait des propriétés qui nous ont paru tellement intéressantes qu'on les appelait magiques.
Bon, donc, alors c'est un quark, si j'ai compris.
C'est une espèce de quark.
Est-ce que vous pouvez définir, en essayant de définir pour les gens de l'extérieur comme moi, ce qu'est un quark ?
Oui. Ça, c'est, vous savez qu'on, disons, la quête de la physique de la physique microscopique, c'était de trouver les constituants de la matière. Et c'était, puisqu'on parle de grec, c'était Démocrite le premier, parce que vous savez, c'était une réponse philosophique à l'époque. Est-ce que la matière est continue ou discontinue? On aurait pu penser l'un ou l'autre. Et l'histoire dit que c'est Démocrite le premier qui a donné la bonne réponse, que Démocrite était de Avdira, Avdiritis, une ville au nord.
Au nord de quoi ?
Au nord de Grèce.
Oui.
C'est donc lui qui a donné la bonne réponse en disant que la matière est discontinue. Donc il y a des constituants élémentaires de la matière. On sait aujourd'hui que c'est vrai. Et on a découvert successivement les atomes, les noyaux. Et après, on a vu que les noyaux n'étaient pas élémentaires, s'il y avait les protons et les neutrons dedans. Et après, on a compris que les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires non plus. Ils sont constitués d'autres particules plus petites que Gell-Mann a appelé quarks. Que c'est pas un mot d'aucune langue. Donc, c'est pas la peine de, il n'y a rien à expliquer, ça veut rien dire.
Mais alors, donc, vous avez trouvé encore plus petit.
Non, c'est pas encore plus petit. Et jusqu'à ce moment-là, on croyait qu'il n'y avait que trois espèces de quarks. Nous, on a trouvé un quatrième. On a dit qu'il doit en exister un quatrième. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a six.
Bon, et alors, les gens vont dire, mais à quoi conduisent dans le monde réel, si je puis dire, la théorie, cette théorie. Vous me direz que déjà, il y a la fission qui est née de toutes les recherches précédentes.
Oui, mais précédentes, donc... non, c'est pas le bon. Même, c'est pas... Si vous me demandez s'il y a une technologie qui pourrait jamais être engendrée par ça, la réponse est que je ne sais pas.
Bon, et donc c'est la connaissance du
c'est
monde elle-même.
C'est la connaissance à l'état pur, pour ainsi dire. Que pour un grec, c'est pas tellement difficile à comprendre.
Oui, nous sommes français, nous allons essayer de l'expliquer. Quand dans cette connaissance à l'état pur, ça part d'une théorie, comme vous êtes un physicien théorique, et que ça se vérifie dans la réalité, est-ce qu'il y a un bonheur?
C'est vrai. Nous, on est théoriciens, donc on a fait ça sur des bases purement théoriques. J'ai oublié
quand
de
vous
dire
nous,
que plus tard, chez les Glaschow, Luciano Maiani. L'un est américain, l'autre italien. En fait, il est de San Marino. Exactement, il est citoyen de San Marino.
Il est à la Sapienza, je crois.
Il est à la Sapienza, oui. Alors, donc nous, on est théoriciens, mais plus tard, j'ai oublié de dire que quelques années plus tard, cette prédiction a été vérifiée expérimentalement. Et on a découvert, on a vraiment mis en évidence cette espèce de quark.
Donc, vous vous sentez en héritage, en descendance avec les présocratiques? Ou est-ce que c'est lointain? Est-ce que c'est avoué finalement dans votre
savez,
tête?
Oui. Retracer ma famille jusqu'au présocratique, je ne peux pas le faire. Je peux le faire, je connais mes ancêtres pendant 50 ans, disons 100 ans, pas plus.
Je voulais dire, bien sûr, une famille d'esprit. Vous me disiez, c'est clair pour un grec. C'est vrai que c'est clair pour un grec.
C'est une plaisanterie. C'est vrai pour nous. Vous savez, les Grecs, c'était des gens relativement, les Grecs anciens, mes ancêtres, si c'est vrai qu'ils étaient mes ancêtres, parce qu'on ne sait pas. Ils disaient deux choses qui étaient, l'un était extrêmement, disons, arrogant, mais ils le complétaient avec une autre chose. Le premier, c'est que pas mielin varvaros. Tous ceux qui ne sont pas des Grecs sont des barbares. Ce qui est. Mais, ils disaient encore quelque chose. Έλληνες εσύ, οι τη συμμετέρα παιδεία μετέχοντε. Γκρέκ, sont tous ceux qui participent à notre culture. Donc, ce n'était pas la question d'être grec par naissance, mais de participer à cette forme de culture. Donc, bon, c'est comme je pense que toute la civilisation occidentale est un peu l'héritage de. Participe à cet héritage culturel qui vient de Grecs, de Romains et aussi, bien sûr, de gens bien avant, parce qu'avant les Grecs, il y avait les Égyptiens, les Assyriens, etc.
Bien sûr, mais est-ce que, justement, je discutais avec un spécialiste des Égyptiens qui disait qu'à travers même le langage, et le langage est important pour les Grecs, bien entendu, qui nous ont laissé tous les mots de la science, parce que vous faites de la physique fusis, hein,
oui,
théorique, etc., etc., oui. Pour aller loin dans le électron, atome, puis on peut continuer. Ce spécialiste des Égyptiens disait qu'il y avait des mots qui n'existaient pas dans la culture égyptienne, par exemple le mot « musique », puisque la musique égyptienne, disait-il, hein, moi je n'y connais rien non plus, accompagne la parole et n'est pas une discipline en soi, mais aussi que les Égyptiens sont orientés, il y a eux et les autres. Alors ce n'est pas dans le sens justement de Barbaros. Est-ce que les Grecs ne nous ont pas légué cette idée que ceux qui, la deuxième partie de ce que vous disiez, que ceux qui relèvent de notre culture en font partie? C'est-à-dire que ça, c'est très rare, de la même manière qu'Échille, qui a combattu deux fois, qui a été un grand guerrier, très courageux, s'est mis dans la peau de l'autre pour écrire les Perses, avec beaucoup de compassion pour l'ennemi. Est-ce que ça n'est pas typiquement grec, de dire que le monde, il suffit de se dire grec pour l'être, au fond, de se montrer grec, pas de se dire, mais de se montrer grec pour l'être. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, nous ne nous montrons pas grecs en tentant d'explorer le monde, de connaître le monde, la connaissance à l'état pur? Est-ce que ce n'est pas un héritage des Grecs?
Je veux bien le croire, mais je dois avouer mon incompétence pour répondre à cette question. C'est une question qui est quand même une question technique. Il faut poser cette question à un spécialiste de l'histoire des civilisations qui vous dira qu'il y aurait certainement d'autres qui ont fait certainement quelque chose. Donc, je ne suis pas capable.
Est-ce que l'idée même de cette réponse, adressez-vous à un spécialiste, il y a des expertises là-dessus, n'est pas une idée profondément occidentale, héritée des Grecs? Est-ce que le fait de devoir vérifier les choses qu'on dit n'est pas un héritage?
C'est possible, c'est certainement une idée scientifique, disons. Oui. Une réticence profonde de parler des choses qu'on ne connaît pas très bien, c'est une des caractéristiques des scientifiques.
Donc il faut le vérifier toujours. C'est vrai, oui. Alors, le directeur général du CNRS, qui s'appelle Arnold Migus, a dit que, je lis, « Vous êtes à l'origine de plusieurs grandes prédictions théoriques qui ont façonné le virage de la physique des particules et de la cosmologie d'aujourd'hui. »
Moi
Oui, vous, vous et, oh, vous et ces messieurs Luciano Miani.
Je suis très content de l'apprendre, je ne savais pas. Je remercie, monsieur le directeur général.
Je l'ai lu gentil. Dans un journal scientifique, je crois que c'est le journal du CNRS. Oui, c'est là que je l'ai repris, cette phrase.
Si vous le dites, je vous crois.
Bon, c'est lui qui le dit. Hein. Et il finit en disant « Cette distinction honore le CNRS ». Car elle reconnaît à la fois un grand scientifique, mais aussi un grand pédagogue qui a formé des générations de jeunes physiciens.
J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'élèves qui étaient très brillants, bien plus brillants que moi.
Permettant à la France.
C'est à travers d'eux que j'ai fait tout ce que j'ai fait.
Permettant à la France d'être au premier rang de cette discipline. Alors. C'est une drôle d'idée quand même que difficile. La parole de Monsieur Migus transite par la mienne. Mais il y a deux mots là-dedans qui quand même, vous savez bien que je suis obsédée par les concepts grecs, il y en a deux que j'ai soulignés. L'un qui est, disons, banal, c'est pédagogue, encore que ce soit un très beau mot grec.
C'est un très bon mot, oui.
Et puisque la pédagogie, hein, oui, c'est l'art de conduire l'enfant. Mais cosmologie. Et cosmologie, on en revient à une notion aussi pré-socratique, à une notion très grecque du cosmos. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment? Est-ce que ça, vous pourriez nous dire, à votre avis, ce que recouvre la notion du cosmos? Que ça veut dire d'abord? Je crois que c'est le joyau.
Vous savez, c'est... Oui, cosmos, ça vient cosmima, c'est le joyau. Donc, les anciens trouvaient que le monde était tellement beau que c'était vraiment le mot qui convenait pour décrire l'univers, même si leur univers était extrêmement restreint par rapport au nôtre, bien sûr. Disons, la cosmologie, comme on l'attend aujourd'hui, c'est difficile à dire quand est-ce qu'elle a été née, mais je dirais que Hubble était le premier qui a vu quelque chose qui n'était pas dans notre galaxie.
Disons, avec sa comète, oui.
La première, non, c'était pas une comète.
Comète,
c'est une toute petite chose.
C'est pas moi, vous savez, je suis
mais
théophile.
Il avait vu le premier, c'était une constellation qui est en dehors de notre galaxie. Et c'était dans les années 20, je ne me souviens pas la date exacte. Et on peut dire que c'est la première fois où on avait une vision, une connaissance de quelque chose qui dépassait notre voisinage immédiat.
Donc c'est très récent, donc,
c'est
finalement.
C'est relativement récent, c'est moins de 100 ans.
Et à votre avis, c'est à ce moment-là que la notion du cosmos a un petit peu changé?
Oui, parce que ça devenait vraiment... On s'est rendu compte que l'univers est beaucoup plus vaste que ce qu'on le pensait.
Mais est-ce qu'il y a toujours cette... on va reprendre un mot grec, enthousiasme, c'est-à-dire que les dieux vous chevauchent quand même hein, dans l'enthousiasme. Pour le savant que vous êtes, à explorer ce cosmos, est-ce que c'est quand même une excitation, parce que vous nous parlez de ça comme si vous étiez bien calme, je suppose que c'est une grande excitation.
Bien sûr, parce que c'est surtout, il faut dire que nous, ma génération et la génération des jeunes qui arrivent maintenant, nous avons justement cette chance inouïe de faire cette découverte extraordinaire de cosmos. Notre pouvoir de résolution, pour ainsi dire, que ce soit pour les très petits ou pour les très grands, n'est-ce pas? Si on regarde des choses, les très très petites, et finalement les deux se rejoignent, les deux. Ou les très grandes, les distances très éloignées. Le XXe siècle a multiplié notre pouvoir de résolution d'au moins 10 ordres de grandeur. quelque chose comme ça. Ça veut dire, on voit maintenant, on observe les proto-galaxies. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste avant, il n'y avait rien.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une proto-galaxie?
C'est les premières... Bon, l'évolution, comme on s'imagine, l'évolution du cosmos, et tout ça, c'est des théories encore, n'est-ce pas? C'est pas, il faut pas... Mais comme on voit les choses, c'est que bon, il y a eu d'abord une espèce de plasma, une espèce de soupe avec tous les ingrédients, les quarks, après le proton, le neutron, les électrons. À un certain moment, les premiers atomes sont faits parce que la température tombait, donc les atomes devenaient stables, donc les premiers atomes étaient faits. Et donc l'univers était fait d'une espèce de nuage énorme, essentiellement d'hydrogène et d'autres éléments très légers. Et après, peu à peu, ça c'était, s'il y a un début de cette histoire qu'on dit souvent Big Bang, enfin, ça c'est une paramétrisation de notre ignorance en fait. Mais s'il y a...
Un joli mot, paramétrisation de notre ignorance, oui. Voilà. Oui.
Donc s'il y a une telle chose, on peut commencer à compter le temps à partir de là. Et donc l'histoire que j'ai dit, le fait que les atomes sont devenus stables, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Ils sont entre 10 000 et 100 000 ans, quelque chose comme ça. Et après, dans quelques centaines de millions d'années maintenant, tous ces nuages diffus commençaient par l'effet de gravitation de se concentrer, de faire les premiers objets, disons galaxies, étoiles, tout ce que vous voulez.
Et donc on arrive à remonter.
On voit
oui.
ça. On voit ça.
On modélise.
Le satellite Hubble, mais aussi des stations terrestres.
On le voit.
On voit.
C'est
oui,
pas
on
seulement
on
un modèle.
Des photos. Oui, oui. Je peux vous montrer des photos qui sont absolument époustouflantes.
Oui.
C'est incroyable de voir les premiers objets lumineux de l'univers. Avant, il n'y en avait pas.
Nous allons arrêter deux minutes, Jean Agiopoulos, et nous reprenons. Immédiatement, Elisabeth Antebi, rayon gamma facteur epsilon avec Jean Agiopoulos. Thank you.
Vous écoutez Canal Académie.
Rayon gamma, facteur epsilon, Jean Héliopoulos avec Elisabeth Antemi. Jean Héliopoulos, vous me racontez la fascination, le vertige qu'il y a à avoir vu les premiers objets lumineux du monde, pour peu que d'ailleurs la connaissance ne soit pas encore repoussée à plus loin, parce qu'on ne sait pas. Vous avez eu le joli mot de paramétrisation de l'ignorance, et c'est vrai qu'on repousse et repousse les limites des choses. Pour pouvoir tenir ce vertige et pour pouvoir continuer et enseigner aux enfants et aux jeunes gens à dominer les choses et à avoir une espèce de neutralité non subjective, non émotionnelle immédiate, etc., qui est peut-être un peu le danger de nos civilisations. Est-ce que, pour vous, une formation humaniste, au sens large, évidemment, bon, il ne s'agit pas de réapprendre tous les jours le grec et le latin, encore que, est-ce que savoir d'où nous venons, voilà, plus exactement, savoir d'où nous venons dans toute cette filiation de l'exploration du monde qui est très proprement occidentale apparemment, cette curiosité permanente du savoir, est-ce que une formation humaniste vous paraît importante? Est-ce que le fait de connaître la civilisation grecque et ses paramètres vous semble importante?
Bon, bien sûr, je ne peux que répondre par l'affirmative, mais pas seulement pour cette raison que vous dites. C'est, vous savez, bien sûr, je suis scientifique, et je pense que c'est une grande chance que j'ai dans ma vie de pouvoir faire des sciences. Mais il faut voir un peu nous situer un peu d'une façon plus générale dans la société dans laquelle nous vivons. Ça ne veut pas dire que la société n'est pas faite uniquement des scientifiques. Il n'y a pas que les scientifiques qui doivent participer à cette, qui doivent être membres de la cité.
Donc, à un moment, quand vous parliez d'expertise, justement, ça peut être le danger. Demander à des experts uniquement de répondre. Bon, je comprends le souci scientifique.
Non, c'est pas. Attendez, il y a des questions précises qu'on ne pose qu'aux experts. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mal aux dents, donc je vais aller voir mon dentiste.
Mal d'amour.
Et je n'aurais pas l'idée de demander à un ami que j'ai qui est avocat son opinion sur ma dent. N'est-ce pas? Donc, il y a donc des questions précises, on ne pose qu'aux spécialistes. Et justement, notre société a de la chance un peu. Nous vivons entourés d'expertise. C'est une chance qu'il faut. Il faut reconnaître que c'est une grande chance. Et on peut trouver la réponse à toutes les questions. Et on peut trouver la réponse exacte, la réponse correcte, dans la mesure des connaissances actuelles.
Vous connaissez la réponse hassidique de l'histoire du rabbin très sage qui arrivait dans un village, et alors il y a un gars qui court derrière lui tout le temps et qui lui dit « Rabbi, Rabbi, donne-moi ta réponse, donne-moi ta réponse ». Et le rabbin lui dit « Donne-moi ta question ». Est-ce que ce n'est pas de questions qu'on manque aujourd'hui? De questions précises, de questions justes, évidemment.
Non, on a les deux. On manque, vous savez, en science on dit toujours qu'à partir du moment où une question est bien posée, la réponse est immédiate. Et donc, c'est vrai que, d'ailleurs, les grands scientifiques, vraiment les très grands, ce n'est pas tellement ceux qui ont su répondre à une question, ce sont ceux qui ont su poser la bonne question, formuler la bonne question. Donc, c'est vrai ça. On ne peut poser que des questions qu'on comprend aujourd'hui. Et ça n'a aucun sens d'essayer de poser des questions dont la réponse n'est pas accessible. D'accord. Mais, je répète, on ne manque pas de questions. On ne manque pas de réponses. Ce qu'il faut, c'est évidemment d'accorder les deux. Et là, un spécialiste ne peut répondre que sur des questions de sa spécialité, qui sont Bon, si vous voulez parler, on parle des anecdotes. Niels Bohr, qui était l'un des plus grands savants du début du siècle dernier, il disait qu'il y a des vérités profondes et des vérités triviales, des vérités, bon, je ne sais pas comment, triviales, je pense que c'est le bon. Alors, quelle est la différence? Si vous avez une vérité triviale, qui est une vérité scientifique d'ailleurs, il disait, si vous avez une proposition qui est vraie, le contraire est faux. Son contraire est faux. Si vous avez une vérité profonde, si vous avez une proposition qui est vraie, qui est une vérité profonde, son contraire est souvent une autre vérité profonde.
Quelle sagesse!
Alors, mais il ajoutait quelque chose. Le rôle de la science, c'est de réduire toutes les vérités profondes à une série de trivialités.
Justement, alors, c'est merveilleux parce que maintenant, est-ce que le rôle du pédagogue aussi n'est-il pas quelquefois de faire retour amont, comme disait René Char, en amont, et de retrouver le sens des vérités profondes, parce que nous sommes peut-être maintenant, dans notre civilisation très technique, réduits aux vérités triviales.
Mais les unes ne remplacent pas les autres. C'est pas qu'on manque de... C'est pas qu'on en a trop de vérités, soi-disant triviales, mais triviales dans le sens... Vous savez, il faut pas... changer le sens du terme. Trivial, dans le sens bien défini de Niels Bohr. C'est-à-dire que si on a une proposition, son contraire est faux. N'est-ce pas? C'est ça. Bon, toute la science est faite de propositions comme ça.
Oui, mais à une époque, au fond, Heidegger, par exemple, dit que la science, enfin, il le dit mieux que moi, mais il parlait de l'aletheia, justement. Oui. Et toute sa réflexion est autour de l'aletheia, c'est-à-dire de la vérité. Et de ce qui n'est pas caché, puisque le l'été est le fleuve de l'oubli. Et il disait, enfin, on a souvent dit, la science ne peut pas penser la science. Il faut une autre dimension pour penser la science. Alors, est-ce que pour avoir cette autre dimension, ça ne s'appelle pas, au fond, ce que les Grecs ont fort bien inventé sous le nom de philosophie? Et à l'époque, ça n'était pas distinct de la science.
Oui. Mais à l'époque, philosophie, c'était toute la science. Ce voilà. N'est pas que c'était distinct. Ça, c'est une conception un peu moderne. Le fait que la philosophie, c'est un que la science ne peut pas penser la science, que, etc.
On a saucissonné au fond système. Les notions, oui.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on a fait des progrès. Ce n'est pas...
On peut appeler ça des progrès.
Mais si, on oui. a fait énormément de progrès. On sait énormément plus de choses, on a compris énormément plus de choses, et pratiquement tout ce que vous avez dit, vous venez de dire, sont des concepts modernes. Ce n'est pas des concepts qui existaient. Pour les anciens, la philosophie, ça couvrait toute la connaissance.
Je suis bien d'accord, je demande si ça ne s'est pas appauvri.
Ce n'était pas que c'était quelque chose qui était qui coiffait le reste, non.
Non, je suis d'accord. Simplement, bien sûr, je dis simplement, est-ce que ça ne s'est pas appauvri? Est-ce que nous ne devons pas retourner en amont où précisément ça recouvrait tout? C'est-à-dire, il n'y avait pas... que la science, les experts, la technique, puis de l'autre côté, les gens qui pensent, et puis voilà.
Mais c'est aujourd'hui non plus, ce n'est pas ça.
À l'école, c'est ça.
Pardon ?
À l'école, c'est ça.
Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, remarquez, ça fait moi, souvenirs de l'école, maintenant, sont des souvenirs.
Non, mais ça, c'était notre
très
école longtemps. Qui était magnifique.
C'est très, très longtemps.
À l'école, aujourd'hui...
Je vois mon fils qui fait l'école relativement récemment. Oh, je ne peux pas dire qu'il y avait cette vision que vous dites apocalyptique.
Non, ce n'est pas apocalyptique, mon Dieu.
Presque.
Non, ce n'est pas apocalyptique. C'est-à-dire, est-ce que la part de réflexion, la part de... Les langues anciennes, comme on le dit, faisaient qu'il y avait une distanciation des choses, qui laissait le temps de réfléchir, le temps de décrypter, le temps d'ouvrir une langue et d'ouvrir une pensée, enfin de comprendre une pensée. On vous formait à ça. Or, aujourd'hui, on vous forme quand même un peu plus, tout le monde le dit d'ailleurs, à l'efficacité du moment. Bon, est-ce que, précisément, l'humanisme, le grec latin ne permet pas de...
n'est pas le contraire de l'efficacité. Si vous...
Ah voilà, non, ça c'est intéressant.
C'est pas vrai, ça. L'humanisme, c'est au contraire, je dirais que... Et c'est aujourd'hui qu'on voit justement, avec le progrès de la science, qu'on voit justement qu'on a besoin de savoir de plus en plus de choses, que le progrès vient de choses qu'on appelle, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est devenu un mot à la mode pluridisciplinaire. Ça veut rien dire, c'est pas que c'est vraiment à plusieurs disciplines, ça veut dire tout simplement que c'est que si on s'enferme dans une vision très étroite, on ne fait pas de progrès, même dans sa discipline, dans sa...
Justement, pluridisciplinaire veut sans doute dire que le fil d'Ariane n'y est plus. Il n'y a plus pluridiscipline, justement, c'est juxtaposé.
Oui, mais justement, c'est pour ça que oui. Je n'aime pas le mot.
Mais
ça existe. Je n'ai pas de meilleur pour le remplacer, donc je l'utilise.
Les autres non plus.
Mais c'est vrai que c'est une... Le fait, justement, qu'on a besoin de cette dimension pluridisciplinaire, ça montre que la spécialisation que vous décrivez n'est pas efficace.
Einstein,
je parle justement contre... Je dis que l'efficacité n'est pas la spécialisation.
On est d'accord. Un jour, il y a une très belle phrase d'Einstein là, que rapporte Hedwig Born dans Helle Zeit. Et il dit, ayant un jour demandé à Einstein, croyez-vous qu'absolument tout peut être exprimé scientifiquement? Il me répondit, oui, ce serait possible, mais ce serait insensé. Ce serait une description sans signification, comme si vous décriviez une symphonie de Beethoven comme une variation d'intensité sonore. Est-ce que justement l'œil grec sur le monde n'apporte pas le sens des choses ? Là, je vais être encore plus grec que vous, plus grec que les Grecs.
C'est pas moi qui vous contredirai.
Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens ? Est-ce qu'on ne décrit pas maintenant Beethoven comme une variation d'intensité sonore ? Bon, hein, on y arrive.
Non, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord. Je lis souvent comme justement Beethoven, c'est un de mes compositeurs préférés. Je lis souvent des analyses sur Beethoven qui, croyez-moi, ne sont pas absolument pas ce que vous dites.
Non, ne va-t-on pas comprendre bien. Voilà. Bien entendu, ce n'est pas le monde entier. Donc, est-ce qu'on ne va pas vers cela un petit peu ? Et croyez-moi, l'humanisme, le grec et le latin sont menacés. C'est pour ça que je vous demande ça. Hein. Est-ce que la formation, simplement, encore une fois, c'est pas pour que tout le monde parle grec et latin, mais est-ce qu'il n'y a pas une formation de distanciation, de réflexion, d'œil sur les choses que nous perdons un peu en chemin?
Oui.
Voilà la question.
Ça, c'est vrai.
Je tourne autour.
On le perd. C'est vrai qu'on perd beaucoup de choses parce qu'on perd les origines. D'abord, je trouve inconcevable qu'un Français aujourd'hui apprend le français sans avoir quelques notions de latin.
Et de grec.
Commençons déjà par le
et
latin,
la
parce que quand même la langue française c'est une langue latine. D'abord, commençons par le latin.
Et démocratie,
et après, s'il veut aller...
démagogie,
oui,
agora,
et
bien, forum,
voilà. Justement, je parle avec des amis, et parfois ils me... J'ai des collègues grecs, donc on parle en grec ensemble, et ils écoutent et ils reconnaissent de temps à autre un mot. Et pour eux, c'est un mot qui est très sophistiqué. Pour nous, c'est un mot de la langue courante. Donc, il est vrai que c'est...
Regardez le mot idiot, c'est un mot grec. Idiot, c'est un mot grec. Donc, c'est pas si sophistiqué.
Mais, oui. Donc, c'est vrai que on perd un peu une partie de nos racines, de notre culture. Si on va en face ici, je vois le Louvre, eh bien, si on se promène là, la moitié de ce qu'on va voir, c'est inspiré de la mythologie grecque. Si on n'apprend pas ça, c'est vrai qu'on va perdre une partie de notre culture. De notre côté, je comprends que parfois, l'enseignement du grec et du latin était fait de façon assez aride, sans vraiment...
Dis donc, apprendre les quarks, ça ne doit pas être simple non plus.
Oui, mais ça, on les apprend. Ça dépend, c'est pas... Pour être bref, une éducation doit être quelque chose qui lie l'élève avec la... qui est vraiment un point de liaison de l'élève avec la matière enseignée. Si au contraire, c'est quelque chose qui sépare, qui est un point d'aliénation, vraiment. Et pourtant, je pense que, en parlant avec des jeunes, parfois, que ce soit le français ou la philosophie, c'est des gens qui disent justement, on a terminé, je ne veux plus en avoir. Si
oui,
c'est comme ça qu'on enseigne...
Vous-même, dans vos recherches, vous avez été pédagogue de jeunes d'étudiants, etc., et maintenant de
pédagogue,
scientifiques.
Pédagogue, ça, c'est pas...
Au sens large du mot.
Au sens très large.
Quand même, les gens que, aujourd'hui, dans vos recherches, il faut aussi que les gens puissent comprendre les enjeux. Je parle des gens, même de la vulgarisation scientifique.
Oui.
Ne rien comprendre aux enjeux, c'est manquer de choix, évidemment.
Oui, bien sûr.
Or, pour que l'on puisse vulgariser, justement, avec les mots justes, il faut avoir le sens des mots justes.
Je parle les mots vulgariser.
Oui, moi non plus, mais enfin, c'est popularisation en anglais qui est meilleur.
Oui, peut-être, parce que vulgariser en
français,
c'est...
Je ne l'aime pas non plus.
Mais en français, a une connotation, a un sens péjoratif.
Je sais, oui.
Voilà.
Je sais, j'ai fait de la vulgarisation pendant 10 ans, je n'aimais pas non plus le mot vulgariser. Enfin, bon, disons populariser, comme disent les Anglais, ou répandre les connaissances.
Est-ce qu'on parle, attendez, puisque vous avez soulevé, est-ce qu'on dit... Et que quelqu'un qui fait une... Bon, vous avez parlé de Beethoven. Quelqu'un qui écrit quelque chose sur Beethoven, est-ce qu'il vulgarise la musique? Est-ce qu'on dit vulgarisation de la musique?
Non.
Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, la musique, la littérature, la poésie, ça fait partie de la culture. Tandis que la science ne fait pas partie de la culture. Et là, non, c'est pas vrai.
Vous savez, ça remonte aux Romains, c'est la notion de l'otium, romain.
L'otium,
c'était toutes les... Oui, mais c'était le contraire à l'époque, c'était la science qui était très importante et la politique aussi. Et puis l'otium, c'était donné à tous les rêveurs qui faisaient de la poésie, de la philosophie, qui parlaient comme nous.
Justement, tandis que les Grecs n'avaient pas cette notion, vous voyez.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour les Grecs, la science, la géométrie, « milis ageometritos ici tot instein », disait Platon. À l'entrée de son académie, c'est marqué l'entrée est interdite à tous ceux qui ne connaissent pas la géométrie. Voilà. Donc, pour eux, la géométrie faisait partie de la culture, de la philosophie, de tout. Donc, c'est pour ça que je suis contre la vulgarisation, parce que ça s'applique uniquement aux sciences.
Bon, mais alors, nous constatons quand même, moi je fais un constat tout bête, c'est qu'il y a d'un côté des savants, des scientifiques, qui, d'ailleurs on les appelle des savants, hein, c'est quand même grave.
Savants, c'est
des
bien
scientifiques.
Ça, j'aime bien ça.
Non, des scientifiques. Non, ils font de la science, ils ne savent pas tout. Donc ce sont des scientifiques d'un côté, et de l'autre côté, nous avons des gens qui parlotent, qui réfléchissent et qui font du journalisme. N'oublions pas ça non plus, parce que maintenant la diffusion des connaissances est faite par le vulgarisi le vulgaire total que devient le journalisme. Donc, entre les deux, nous avons maintenant, je constate, nous avons un abîme. Alors, comment faire que cet abîme, entre la justesse du mot, parce que le mot est aussi très juste, moi j'écris des livres, donc je sais combien le mot, je suis historienne, le mot doit être juste, doit correspondre aux choses, doit être corrigé s'il est faux. Moi, je dis beaucoup de choses fausses quand je vous parle, évidemment, vous me corrigez, ce qui est normal. Est-ce que cette exigence de précision, elle doit bien venir d'une formation quelconque qui n'est pas une formation scientifique. Voilà, c'est ça
C'est ça qui manque. C'est une évolution. Écoutez, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ça pour en parler.
Non, mais quand vous êtes
mais
en face d'un journaliste, par exemple,
oui,
vous ne le ressentez
vous
pas.
Vous avez raison, mais je le constate de façon plus générale. La langue même, je dirais, la beauté de la langue a cessé d'être une valeur parmi les jeunes d'aujourd'hui. Bon, c'est un fait, c'est notre culture
notre
qui a changé, oui, peut-être. Je vous dis, je ne porte pas de jugement, je constate que les anciens savaient écrire correctement, ne faisaient pas de fautes d'orthographe, et les jeunes le font moins bien.
Bon, mais oui, enfin, je reviens sur l'histoire de notre Einstein et de sa symphonie d'intensité sonore. Si on veut que tout cela devienne à l'oreille Beethoven, il y a quand même une formation des choses.
Oui,
et n'est-ce pas cette formation qui s'est perdue en chemin? Est-ce que quand vous parlez, vous, à des littéraires, est-ce que vous ne ressentez pas cette incompréhension qu'on a des notions que vous pouvez expliquer?
C'est vrai.
Bon, alors...
Donc, c'est, d'une certaine façon, c'est notre faute, à nous, les scientifiques, qu'on n'a pas su communiquer, expliquer, éduquer les autres sur la beauté de notre science.
Bon, eh bien, écoutez, on va le faire, surtout par le charme. Et je vous remercie, Jean Iliopoulos.
C'est moi qui vous remercie.
Ah, dites-le en grec.
Ευχαριστώ πολύ.
Voilà, à bientôt pour nous retrouver sur Rayon Gamma, facteur epsilon. Ici Elisabeth Antibi.